La couleur des mots. Ce matin, le mot bonheur, vous savez, je vous en parle à chaque fois que dans cette émission, il y a 365 jours pour être heureux, du livre de Jacques Héperic. J'ai sorti pour vous, en ce février, mois de février, le bonheur ne s'acquiert pas. Il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Petit proverbe africain. Alors ce matin, tiens, je vais vous faire une petite surprise. J'ai ramené un invité. On va écouter un peu de musique pour voir si vous le trouvez. Et puis si quand vous aurez trouvé, dire oui, ça y est, je l'ai, eh bien on en parlera ensemble.
Sur la première feuille de l'artichaut, j'écris que sans vous il ne fait pas chaud. Et sur la deuxième, que je vois quand même un peu de soleil entre les branches découpées. Sur la troisième feuille, j'écrirai bien que sans votre rire il ne se passe rien. Sur la quatrième, que son diadème durera le temps que l'on va mettre à le manger. Sur la cinquième feuille de l'artichaut, je voudrais écrire le chant de l'oiseau qui de la sixième a fait un poème en la picorant avant de la mettre à son nid. Quant à la septième, je l'ai donnée à un écureuil qui venait glaner avant la froidure de la nourriture pour que la saison d'hiver soit douce à ses petits. Sur toutes les feuilles de l'artichaut, j'ai voulu écrire, il y en avait trop. Mais si je les mange, moi ça me dérange, j'aurai l'impression d'avoir avalé tous les mots. Après les piquants, j'ai trouvé le cœur, je n'en ai jamais goûté de meilleur. J'ai jeté les feuilles, tant pis si on cueille un bout du secret que j'avais écrit au stylo. Sur la première feuille de l'artichaut, sur la première feuille de l'artichaut.
Bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Bonjour les auditeurs et auditrices fidèles. Alors vous l'avez trouvé, notre invité? Mais oui, bien sûr, c'est l'artichaut. On va en parler avec un petit livre de Marie-Christine Cavenel qui s'appelle « L'artichauterie » et qui est édité par les Amis de la Poésie à Bergerac. Alors, là-dedans, j'ai extrait, parce que c'est plein de jolies choses, même de recettes de cuisine, comment faire, là, d'abord, comment, pourquoi l'artichaut, depuis quand il est, on le cultive, mais aussi comment on le mange, tout ça. Vous avez plein de petites choses. Mais alors, il y a un petit conte. Il y en a deux, à vrai dire. Il y a un petit conte, il est délicieux, et c'est celui que j'ai choisi. Il s'appelle « Histoire d'un artichaut amoureux d'une pâquerette ». Ah ah oui, je sais ce que vous allez me dire. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh bien, c'est un petit conte pour adultes avertis. Allez, on y va. Comme tous les petits contes, il était une fois une femme sourde comme un pot qui avait la faculté étrange d'entendre le langage des fleurs. Elle était d'une paresse vertigineuse, toujours négligée et remettait au lendemain le peu de résolution qu'elle prenait le matin avec sa tasse de thé. Elle passait l'hiver sous la couette, échangeant quand la solitude pesait trop avec les quelques pensées abandonnées sur le balcon de sa maisonnette. Les pensées, vaille que vaille, résistait au vent, à la neige, et fleurissait bon an, mal an, sans trop se plaindre. La vieille dame exprimait sa reconnaissance en leur adressant quelques mots. Ah, vous savez, juste quelques encouragements à guetter le printemps en sa compagnie. Ce qu'elle ne l'est pas, ne manquait pas de faire, bien sûr. Et l'hiver passait ainsi pour que cette triste saison ne fût pas dite morte pour rien. La vieille dame sortait de sa torpeur au printemps comme l'ours sort de son hibernation, un peu la tête en vrac, la démarche balourde, les yeux plissés à cause de la lumière qui l'éblouissait lors des premières sorties. Sa priorité était bien sûr de libérer ses pensées au milieu de la clairière près du puits. La pluie serait un régal pour ses compagnes de l'hiver, sans compter qu'elle prêchait l'autonomie des fleurs et que survenir à un besoin l'hiver, pensait-il futile, élémentaire, lui pesait comme pèse le remerciement du pauvre au moment de l'aumône. La vieille dame seule, était toute seule, courbaturée et puis sourde, ce qui n'était pas incompatible avec le sens des valeurs. Un sentiment de culpabilité sincère et encombrant depuis l'enfance l'avait écartée du monde et qui tournait à l'envers selon son point de vue. Elle n'y trouvait pas sa place. Faute d'y être utile, elle avait préféré se retirer, vous savez, sans prévenir personne, à l'orée de la forêt. Elle s'était établie dans un petit coin et bâtie une petite maison en tôle, découpée non sans habileté, pour créer des fenêtres avec un pliage maison, vous savez, pour qu'il fût sous une forme de balcon destiné à ses pensées. Une porte et même un découpage circulaire au sommet du dit audit pour qu'un feu rayonnait quand le froid se mêlait à la rendre. Vous savez, des fois, sous la couette, c'était pas suffisant. Alors, elle le faisait un petit feu pour juguler les frissons. Un homme peu bavard laissait toujours du bois, quelques œufs, un bol de bouillon fumant et des sachets de thé qu'il avait compris être indispensables à la dite maison en forme de bidon, sans poser de questions. Bon, nul remerciement de la bonne vieille qui se cachait toujours quand elle entendait le pas de son bienfaiteur emmitouflé dans sa couette. L'hiver, elle se mettait dans sa couette, mais l'été, elle se cachait derrière un arbre. Un arbre pour tout le reste de l'année, pour regarder le monsieur. Le silence suffisait à s'entendre parfois. Parfois, vous savez, l'homme livrait aussi des vivres. Alors, elle, parfois, suivant les saisons, la vieille dame déposait sur la pierre où l'homme venait mettre ses vivres, elle y mettait, elle, des tisanes variées. Allez, hop, un peu d'origan, un peu de serpolet, de la sauge. Mais pourquoi meurt-on quand on a de la sauge dans son jardin? De la mélisse, de la menthe, allez, et bien d'autres encore. L'homme était toujours heureux de se retrouver, toutes ces choses. Et sur les... qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, elle faisait... sur des ficelles bleues, vous savez, qu'elle trouvait sur les chemins oubliés par des agriculteurs peu scrupulés. Alors, la bonne femme faisait sécher ses plantes sur ce fil. Elle avait tendu les ficelles comme elle avait pu, et, vous savez, et l'odeur subtile de ces plantes séchées, oh là là, embaumait tout ce lieu. Et elle disait... mieux vaut un petit chez soi qu'un grand volet aux autres. Ça, c'est ce qu'elle ruminait parfois quand elle se surprenait à décoller ses lèvres. La balourdise de sa démarche disparaissait rapidement au gré de ses promenades durant la belle saison. Le tout premier écho qui la faisait sortir, c'était le vert tendre, à peine susceptible, dont se couvrent les arbres morts l'hiver quand la sève monte. Les chatons dans les arbres l'avertissaient de l'arrivée imminente des beaux jours et le chant des oiseaux glorifiait la nouvelle. Puis tous les bourgeons, jour après jour, apparaissaient et ce qui la réjouissait bien, bien au-delà des mots qu'elle n'entendait plus. Alors elle oubliait ses rhumatismes et marchait d'un bon pas pour sentir, pour voir, choisir, entendre les fleurs. Elle les aimait tellement que souvent elle en mangeait d'un solide appétit et rattachait leur goût à de vieux souvenirs. Alors, ah oui, la bourrache, par exemple, tiens, la bourrache, voyons, voyons, a un goût iodé qui lui rappelait les huîtres. La vieille dame voyait à ce moment-là l'océan. Les capucines, tiens, ah, voilà les capucines. Et elles étaient poivrées. Et la dame recouvrait son homme, la mauve du ce rose. Et la dame croyait entendre le chef de service. Et puis, comme ça, comme ça, comme ça, au gré des fleurs, elle voyageait dans son passé. Les jours de grosse chaleur, elle s'allongeait sur une nappe, abandonnée un jour par l'homme qui amenait à manger. Elle prenait alors, vous savez, des poses lascives. Elle était à poil, protégée par la nappe, protégée bien sûr pour, vous savez, les petits animaux, les aoutas dévoreurs de vieilles dames. Elle aimait le soleil. Il ranimait ses désirs. En lui brûlant les cuisses, il lui rendait sa jeunesse comme les orties avec lesquelles elle se fouettait, elle, pour dégripper hein, ses articulations. Alors, étendue sur cette natte, elle frôlait aussi, en frottant doucereusement sur son vieux corps décharné. Elle le trouvait encore joliment modelé, comme celui d'une jeune fille, sauf, bien sûr, peut-être ses seins qui n'étaient plus si fiers. Mais ses cuisses restaient fermes et la peau était douce, grâce aux fleurs d'onagre dont elle était l'ogresse. Heureuse de goûter aux caresses, elle s'autorisait même quelques petits gracieux orgasmes dont le soleil était le seul témoin. La jouissance est une énergie vitale, et la vieille dame dans sa forêt s'en souvenait les jours de grand soleil allongée sur sa natte. L'onanisme restait estival en relation directe avec l'astre solaire. Elle s'allongeait toujours devant un petit jardin plein sud qu'elle s'était appliquée en un temps résolu d'enrichir la terre en volant très très poliment les mottes aérées qui signalaient les taupes. Ah ! Elle n'en ratait pas une et tout au long de ses promenades, elle remplissait son cabas de la précieuse terre de son panier de plantes qu'elle faisait chercher. En quelques années, son jardin avait pris forme, et celle du jardin de curé, vous savez, comme elle était fière, elle était très fière. Elle n'avait délimité, on l'avait, vous savez, avec des bouts de grillage par-ci, par-là. Mais, pour pas qu'on s'assoie vilain, elle les couvrait de capucines. Une grande consoude, pourrait procurer surtout le nécessaire aux trois foiriens qu'elle plantait. Alors qu'est-ce qu'elle y mettait dans son jardin? Voyons. Un jardin, un pied de salade, un chou, ah, un pied de consoude. Ah oui, bien sûr, un pied de tomate. Le jardin était envahi par les soucis. Fleur qu'elle appréciait pour sa résistance et ses commérages. Les violettes de printemps rêvaient d'être les reines. Elles exhalaient leur parfum et à côté des pâquerettes qui, elles, ensemble, faisaient un beau tapis. La vieille dame prenait le soleil, sa cure de jouvence, en croquant une capucine à portée de main, sans avoir à bouger. Trônait au milieu de son jardin sa plus belle réussite. Et nous y voilà. Les artichauts dont elle prenait soin de... Ah, alors, comment faisait-elle ? Elle ramassait les merdes des chevaux croisés sur les chemins lors de ses promenades. Rien n'est jamais trop bon pour nourrir cette merveille aux yeux de la vieille dame. Elle les avait vus croître et se multiplier en peu de temps grâce à l'œilletonnage. Cocaille, me direz-vous, cocaille. Mais c'est une sorte de récupération des rejets qui honorait les valeurs de la vieille dame et qui s'avère d'une technique bien plus productrice que les semis ou les plants. Sa plus grande fierté était de les voir plus grands qu'elle. Mais oui, une mère aime lever les yeux sur sa progéniture. La bonne vieille avait des rejetons, c'était des artichauts, et elle veillait sur eux comme une vieille mère. Ça peut vous paraître idiot. Or, nous y voilà. Or, il advint un jour d'été que l'un des plus beaux violets du jardin de curé qu'elle avait choisi se mit à ployer tant et plus pour inquiéter la vieille dame, qui, elle, malheur, se dit « Voilà, le voilà malade !» Oh là là, elle s'en confia vite aux soucis, parce que, comme ça, ça va lui réparer sa maladie. Puis, une pointure, vous savez, « Ah là là, qu'est-ce qui se passe ?» disait cette pauvre dame. Et là, elle s'aperçut, au milieu de son jardin, qu'il y avait les pâquerettes. Et les pâquerettes étaient tout autour de l'artichaut. Comment elle était soulagée, bien sûr, de voir que c'était point une maladie. Alors elle était toute étonnée, elle disait « Comment un artichaut peut élire une pâquerette qui, de plus, comment la reconnaître ?» Elle avait plus ou moins que les autres, celle-là, pour élire de son cœur. Ah, elle succombait ainsi au charme de la fleur anonyme. A-t-on déjà rencontré, dites-moi, un chameau qui se mourait d'amour pour un grain de sable du désert ? L'amour ne lève jamais le voile de son mystère. La vieille dame le savait, et comme elle était voyeuse dans l'âme, elle choisit d'observer le prodige sans plus commentaire. Elle disait « Je vais regarder, voilà, et son charme. » Et tout ce qu'elle vit fit un régal qui la charma tout l'été. Alors, si vous voulez, à un moment, savoir comment un artichaut violet peut être amoureux d'une pâquerette parce qu'ils ont eu un coït, et comment en arriver là, me direz-vous ? Eh bien, je vais vous laisser le choix de lire ce livre, parce que vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas le qualifier. Ça vous donne des émotions, ça vous fait venir des petits frissons heureux, rien que d'observer une plante, un artichaut, comment il regarde et comment il aime sa petite pâquerette, et tout ce qu'il va faire pour qu'elle le remarque et pour qu'elle aussi tombe amoureuse de son artichaut. Voilà, Christian, je crois que le temps qui nous est imparti, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Nous allons écouter, bien sûr, tiens, une chanson sur l'artichaut, Et puis, écoutez, si des fois, il vous venait l'envie d'avoir la fin de cette histoire, qui comporte encore quelques pages, eh bien, vous savez, on a un joli secrétariat, on a une charmante secrétaire, eh bien, vous téléphonez en disant, moi, j'aimerais bien écouter la fin, et puis je ramènerai le bouquin. En attendant, si vous voulez pas appeler, c'est pas grave, vous pouvez toujours aller chercher le livre. Merci Christian de m'avoir accompagné. Je vous redis le livre de Marie-Christine Cavenel, Artichauterie, Les Amis de la Poésie, c'est à Bergerac. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et surtout, prenez bien soin de vous. Alors on va terminer avec quelque chose de gai, tiens. George Milton, pourquoi les artichauts? Non, vous vous rappelez de ça? Notre jeunesse.
Quand on pose une question qui mérite attention, moi je ne fais pas celui qui réfléchit, pas d'embarras et pas de chichi. J'ai un truc épatant qui rend tout le monde content. Avec conviction, je réponds à la question par cette interrogation. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait pour le gigot, ou les escargots, ou les cuissons de veau. Mais dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Et chaud ou froid, dites-moi pourquoi. La première nuit des noces, on a une peur atroce. La petite mioche est là qui attend, ce qui sera moche ou très épatant. Elle dit quand on la serre, qu'est-ce que vous allez me faire pour pas qu'elle défaille? Ne donnez pas de détails, mais dites-lui quand elle tressaille. Est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Moi, je ne sais pas, renseignez-moi. Car s'ils sont meilleurs chauds, moi qui les mange froids, je les réchaufferai la prochaine fois. On le sait pour le gigot, ou les escargots, ou les cuissons de veau. Mais dites-moi, est-ce que les artichauts froids sont meilleurs que chauds? Et chaud ou froid, dites-moi pourquoi. Chaud, moi je ne sais pas, renseignez-moi.